Romains chapitre 9, versets 27 et 28. Ésaïe s'écrie aussi au sujet d'Israël. Quand le nombre des enfants d'Israël égalerait le sable de la mer, un petit reste seul sera sauvé. Car le Seigneur consommera et abrégera l'affaire avec justice. Le Seigneur fera une grande diminution sur la terre. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour et bon sabbat. Je prie que cette étude vous trouve bien portant et disposé à explorer davantage la parole du Seigneur. Mais pas n'importe quelle parole, mais la parole qui a trait à notre moment présent, ce que la Bible appelle la vérité présente. C'est un terme qui a été trop utilisé et bien trop abusé. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais que l'on puisse le remettre sur son juste socle et comprendre ce que cela veut dire, de recevoir la nourriture au temps convenable. La parole de Dieu qui est adaptée au moment présent, au moment dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pas une interprétation qui jette dans le futur quelque chose qui s'est déjà accompli dans le passé, ou qui met dans le présent quelque chose qui ne s'est pas encore accompli. C'est important que nous ayons cet équilibre dans notre esprit. D'autant plus en tant qu'adventistes du septième jour qui sommes censés être le peuple du livre, mais qui aujourd'hui est devenu le peuple des commandements des hommes. Et nous voulons, frères et sœurs, abattre ces murs de tradition, ces murs de superstition doctrinale, par la grâce de Dieu. Et donc nous poursuivons notre sujet sur la pluie de l'arrière-saison, la moisson et le criblage. Et dans le sujet du criblage, vous avez vu que la dernière fois, nous avons simplement touché la surface en regardant quelle était l'expérience vivante de ceux qui traversent ce criblage, de ceux qui traversent ce tri, parce que c'est ce que le criblage est, c'est un tri du blé et de l'ivraie. Et nous avons vu notamment, j'espère que vous en souvenez, si vous ne vous en souvenez pas, je vous réfère à notre méditation précédente sur les expériences vivantes du criblage, où nous avons vu que le criblage n'est pas ce que nous avons souvent pensé qu'il était. C'est ce que aussi nous avons vu sur les révélations vitales sur la moisson, à savoir que les déclarations de l'esprit de prophétie nous laissent entendre et comprendre clairement que ce n'est pas que nous ne devrions pas nous attendre à ce que l'ivraie sorte et que le blé reste et que nous nous retrouvions avec une organisation composée uniquement de blé, comme c'est d'ailleurs la superstition et l'idée qui a été pendant de nombreuses années véhiculée et répétée, réitérée à travers les cercles adventistes. Nous ne pouvons pas nous attendre à cela, en effet. Au contraire, nous sommes appelés et nous ne pouvons que nous attendre à ce que le blé soit sorti. Alors bien entendu, l'illustration que Dieu donne Jésus dans Matthieu chapitre 13 laisse entendre que l'ivraie est triée, et en effet elle l'est, simplement, comme nous avons vu autre part, je crois que c'était dans Amos, eh bien, il y a un moment où l'illustration n'est plus suffisante pour décrire l'ampleur de la réalité physique et littérale. Et c'est ce que nous avions vu dans un verset où il est dit que il en viendra un moment à cette fin des temps où celui qui récolte viendra devancera celui qui est en train de semer et vice versa, celui qui est en train de vendanger celui qui était en train de planter. De telle sorte que l'illustration est en manque pour pouvoir décrire le fait que les choses se superposent à la fin des temps pendant cette période de la moisson. Cette période qui a commencé en 1844, qu'est-ce que nous avions vu, je vous réfère encore une fois à nos études précédentes que le temps du jugement est un moment redoutable, solennel, pendant lequel le Seigneur rassemble son peuple du milieu de l'ivraie. C'est ce que nous avions lu. Donc il rassemble son peuple du milieu de l'ivraie, il rassemble le blé. Nous avions aussi lu que si l'Église, les membres de l'Église croient en savoir tant, sont si suffisants qu'ils ne veulent pas recevoir les instructions de Jésus, eh bien Dieu lui-même prendra les ministres fidèles, les ôtera, de même qu'il le fera le blé, les membres fidèles. Et il ne restera alors plus qu'une organisation remplie d'ivraie. C'est ce à quoi nous pouvons nous attendre à travers cette déclaration inspirée de l'esprit de prophétie qui est le témoignage de Jésus. Et donc, frères et sœurs, le processus de l'expérience vivante du peuple de Dieu à travers le temps du criblage, nous pouvons le voir exprimé notamment dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 20 à 22. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une séparation physique, il ne s'agit pas simplement de dire que des personnes sont mauvaises ou des personnes sont meilleures, mais il s'agit de savoir qui suivent dans les traces du Seigneur. De savoir qui écoute et met en pratique les paroles de Jésus. Il s'agit de savoir qui souffre avec Christ. Et c'est cela, ces personnes-là, que la Bible nous présente et que l'esprit de prophétie nous montre dans un tracé prophétique jusqu'à l'entrée dans la Canaan céleste. Et c'est ces personnes-là au sujet desquels il nous est donné tant de détails et de descriptions et de représentations à la fois prophétiques et expérimentales, on pourrait dire. C'est ces personnes-là sur lesquelles le Seigneur se concentre, mais en parallèle, il faut aussi qu'il nous donne des détails sur le caractère et les dispositions des personnes qui ne sont pas celles qui craignent le Seigneur, qui ne sont pas celles qui mettent en pratique les paroles de Jésus, qui ne sont pas celles qui souffrent avec Christ. Parce que, comme on le lit aussi autre part, c'est seulement si nous souffrons avec Christ que nous pourrons être glorifiés de même avec lui. Seulement si nous souffrons que nous pouvons prendre notre place et faire en sorte de faire partie du blé que le Seigneur prépare et rassemble pour ses greniers célestes. Nous le lisons maintenant dans Jean chapitre 16, versets 20 à 22. En vérité, je vous dis, dit Jésus, que vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Quand une femme accouche, elle a des douleurs parce que son terme est venu. Mais dès qu'elle est accouchée d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. De même, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Vous êtes dans la tristesse, disait Jésus à ses disciples. Et il leur annonçait, vous pleurerez et vous vous lamenterez pendant que le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse, quoique votre trajet sera douloureux, votre tristesse à la fin du long périple du chrétien votre tristesse sera changée en joie. Quand une femme accouche, elle a des douleurs, mais quand elle est enfin accouchée de son enfant, elle a oublié son travail à cause de sa joie, de ce nouveau-né qu'elle a tant attendu. Et de même, Jésus disait, vous êtes aujourd'hui maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Et donc c'est en vue de l'accomplissement final de cette promesse de Jésus de revenir que nous marchons dans ce sentier étroit du port de la croix du croyant. Et c'est cette expérience qui fait partie de ces personnes-là qui ne sont pas criblées sorties, mais qui sont criblées gardées, qui sont triées et stockées par le maître des armées, par le grand maître de son champ. Et j'aimerais qu'on se tourne vers Jérémie chapitre 31. La raison pour laquelle je lis ça, frères et sœurs, c'est parce que parler du criblage, c'est nécessaire, mais c'est important de ne pas perdre de vue quel est l'objectif de tout cela. Pourquoi parlons-nous de tout cela? À quoi bon aborder le sujet d'une séparation, le sujet d'un tri, le sujet d'un amoindrissement des effectifs du peuple de Dieu, à quoi bon en parler, si ce n'est en vue de cette chose que Jésus a dite, à savoir le moment final où notre tristesse sera à jamais changée en joie. Notre tristesse, nous sommes appelés à l'échanger pour des vêtements de louange ici-bas. Mais Jésus parlait du jour où il nous verrait de nouveau et où toute notre tristesse sera à jamais effacée et où Dieu essuiera les larmes de notre cœur, comme c'est annoncé dans Apocalypse chapitre 21, en parallèle avec la descente de la nouvelle Jérusalem. Donc, quand Dieu parle de cet effacement définitif de nos tristesses, de nos larmes, le plus souvent cela a à voir, et c'est directement lié au retour de Jésus et à l'établissement du royaume de la gloire de Dieu sur la terre renouvelée après les 1000 ans. Et je le lis encore maintenant dans Jérémie chapitre 31, versets 9 à 12. Ils viendront avec pleurs et supplications. Je les conduirai, je les mènerai au torrent des eaux par un droit chemin où ils ne broncheront pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, annoncez-la dans les îles lointaines, dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et le retire des mains d'un plus fort que lui. Et ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront au bien de l'Éternel, au froment, au mou et à l'huile et aux fruits du gros et du menu bétail. Et leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne continueront plus à languir. Votre tristesse sera changée en joie. Et c'est ça notre aspiration, c'est ça notre vision, c'est ça notre espérance. Toute l'expérience que ces personnes font est en vue de la grande délivrance et de la grande réunion de l'Église sur la terre avec l'Église dans le ciel pour ne former plus qu'un. Pour l'éternité. Et vous voyez, frères et sœurs, le criblage est directement lié à cette expérience nourrie d'aspiration spirituelle et éternelle. C'est directement lié. Vous ne pouvez pas le séparer. Ou nous pouvons le séparer, mais ce deviendrait froid. Et ce n'est pas ce que j'ai envie de communiquer. Parce que ce n'est pas ce que j'ai vécu dans mon expérience de ces vérités que je vais, par la grâce de Dieu, essayer de vous présenter à travers la parole de Dieu. Parce que ces vérités, qui sont une réalité, sont vérifiées et n'existent pour nous qu'à travers notre compréhension intelligente des déclarations du Seigneur, à la fois dans sa parole et aussi dans le témoignage de Jésus, qui n'est autre que les paroles du Seigneur également. Et donc, nous vérifions cela, que c'est bien une expérience vivante dont il est question dans le criblage, en lisant, en relisant cette déclaration de premiers écrits à la page 269 et au paragraphe 1 et suivant, dans la page suivante, où l'esprit de prophétie nous dit, la servante du Seigneur voyait en vision, « J'ai vu quelques croyants qui, avec une grande foi, et des cris angoissés plaidaient avec Dieu. Leur visage était pâle, révélant leur profonde anxiété et leur lutte intérieure. Ils manifestaient une grande ferveur et une grande fermeté. De grosses gouttes de sueur perlaient à leur front. De temps en temps, sentant l'approbation de Dieu, ils étaient rayonnants, mais bientôt ils retombaient dans le même état de ferveur, d'anxiété et de gravité. » Vous les voyez, ils ont en vue, à l'horizon, leur perspective, c'est la terre nouvelle. Ce sont les cieux nouveaux, c'est le royaume de Dieu, c'est l'éternité avec Dieu et l'agneau, et les saints anges et les rachetés. C'est leur vision, mais à travers cette aspiration, au travers de leur marche chrétienne qui est nourrie de cette aspiration vivante, de cette espérance invincible, ils sont plongés dans une lutte aux prises avec le diable et ses mauvais anges, aux prises avec leur nature charnelle et leur passé noir et obscur, aux prises avec leur désir d'offrir à Dieu un sacrifice parfait et irréprochable, sans tache, un agneau saint, un agneau pur, un agneau sans défaut à Dieu, comme le don de leur cœur reconnaissant. Mais ils sont aux prises avec leurs défauts, leurs imperfections et les luttes intérieures et leur profonde anxiété. Et c'est ce qui produit cette friction dans leur vie. La friction de ces quelques croyants qui, avec une grande foi et des cris angoissés, plaidaient avec Dieu et que nous avons vu à travers cette vision. Je continue. Page 270. Les croyants continuant à supplier le Seigneur, parfois, un rayon de lumière provenant de Jésus venait jusqu'à eux pour les encourager. Leur visage en était illuminé. J'ai vu que quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre de supplication agonisante. Quelques-uns d'entre eux, vous avez vu la dernière fois, c'est très très important de bien voir les mots précis. Hein. Quelques-uns d'entre eux, quelques-uns de ce peuple, quelques-uns de ces personnes qui professaient foi au message du troisième ange, quelques-uns d'entre eux ne participaient pas à cette œuvre de supplication agonisante, mais ils professent attendre le retour de Jésus, mais ils ne sont pas en harmonie avec leurs croyances. Ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils disent. Ils ne mettent pas leur argent sur ce qu'ils ont promis, sur ce qu'ils ont dit, sur leur bouche. Ils ne sont pas comme cela. Ils ne veulent pas participer à cette œuvre de supplication agonisante. Ils n'en veulent pas. Et donc, nous lisons à leur sujet, ils semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Que se passait-il autour d'eux? Qu'ils auraient dû savoir? qu'ils auraient dû savoir, qu'ils auraient dû reconnaître, qu'ils auraient dû entendre, qu'ils auraient dû voir par l'œil et l'oreille de la foi. Ils auraient dû savoir que les anges étaient en train de combattre pour leurs âmes, les bons et les mauvais, que le diable était en train de jouer au jeu de la vie pour les conduire à la perdition. Ils auraient dû savoir cela. Mais ils ne voulaient pas participer à cette œuvre de supplication agonisante. Qu'est-ce qui était en train de leur arriver? Quelle était leur part de l'expérience vivante du criblage? Ils montraient, en grandissant, en croissant, qu'ils n'étaient pas du blé. Parce que c'est ce qui arrive, vous savez, quand l'ivraie grandit. Au début, vous n'êtes pas sûr, mais plus elle grandit, plus vous dites « ça, c'est pas du blé ». Pourquoi ? Parce que le fruit est mince, le fruit est tout minuscule. Le fruit passe à travers le crible. Et ces personnes-là étaient en train de montrer qu'ils passeraient à travers le crible de la fournaise de l'épreuve. Que Dieu fera passer chacun à travers. Chaque personne sera passée au crible de l'affliction et de l'épreuve, mais seuls ceux qui ont grossi suffisamment pour rester dans le crible montreront qu'ils sont dignes des greniers célestes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le fruit. Ils sont un fruit. Ils sont du blé. Ils sont ce que Dieu a semé, à savoir la conséquence inévitable de la semence de la parole de Dieu qui grandit et qui produit du fruit jusqu'à 20, 40, 60 ou 100. Mais ces autres personnes que nous avons vues et dont nous étions en train de parler semblaient indifférents à ce qui se passait autour d'eux. Comment est-ce qu'ils manifestaient cela ? Ils ne résistaient pas aux ténèbres qui les entouraient et celles-ci les emprisonnaient comme une épaisse nuée. Alors les anges de Dieu les abandonnaient à leur sort et allaient secourir ceux qui priaient. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. C'est le criblage. Dans l'expérience vivante du criblage, Dieu est en train d'augmenter la pression, il est en train d'augmenter les secousses, il est en train de secouer d'autant plus fort, d'autant plus ardemment, d'autant plus décisive que ceux qui n'ont pas grandi comme du blé, ceux qui n'ont pas manifesté les fruits de la vie d'une personne convertie vont passer à travers le crible. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils vont sortir du peuple de Dieu. Comment ? Est-ce que cela veut dire qu'ils vont quitter une organisation ? Non, parce que nous avons vu la dernière fois que le temps du jugement est un moment, une période solennelle durant laquelle le Seigneur rassemble son blé ou son peuple du milieu de l'ivraie. Rappelez-vous cela, frères et sœurs. Les illustrations sont compatibles de telle sorte que Dieu est en train de placer des détails supplémentaires là où une illustration simple de cette activité d'antan n'aurait pas été suffisante. Le temps du jugement est une période solennelle durant laquelle Dieu est en train de rassembler son peuple du milieu de l'ivraie. Il le rassemble, il le sort de l'ivraie. Donc le crible, normalement le blé reste, mais l'esprit de prophétie nous dit que Dieu, dans l'expérience physique et littérale, rassemble son blé de l'ivraie. Très important, frères et sœurs, rappelez-vous de cela. Je continue. J'ai vu les anges de Dieu se hâter auprès de ceux qui luttaient de toute leur force pour résister aux mauvais anges et qui s'encourageaient eux-mêmes en implorant le Seigneur avec persévérance. Mais les anges du ciel ne s'occupaient pas de ceux qui ne faisaient aucun effort pour s'aider eux-mêmes et je les perdis de vue. Elle continue, je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable aux Laodicéens. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront, et c'est ce qui produira un criblage parmi le peuple de Dieu. Ici, j'ai oublié de prendre la traduction littérale qui est « On me répondit qu'il était causé par le témoignage franc du conseil du témoin fidèle et véritable aux Laodicéens. » C'est ce qui est écrit littéralement. Ce criblage était causé, fut causé, serait causé par le témoignage franc du conseil du témoin véritable aux Laodicéens. C'est comme cela que nous apprenons que le criblage serait causé ou provoqué. Et comment est-ce que ce serait causé par cela, provoqué par cela? En ceci, où il est écrit, quelques-uns ne l'accepteront pas. Ils le combattront, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Donc l'esprit de prophétie ici, dans les premiers écrits, page 270, paragraphe 2, nous annonçait, dès le début, je crois que c'est Testimonies for the Church, volume 1, ce qui devait être les années 50-56 à peu près. Les premiers écrits, d'où le nom. À cette époque-là, déjà, l'esprit de prophétie nous annonçait que un criblage se produirait et serait provoqué par le témoignage franc du témoin fidèle et véritable aux Laodicéens. Maintenant, nous voulons voir, et on va un peu couper court, faire des raccourcis à travers l'esprit de prophétie pour voir quel était ce témoignage franc aux Laodicéens et si nous pouvons en réalité bel et bien l'identifier dans l'histoire pour que nous puissions avoir un pied à terre pour savoir à partir d'où il nous faut commencer à explorer l'esprit de prophétie et qu'est-ce que nous devons chercher pour savoir où est-ce que nous devons et nous devons nous attendre à trouver le criblage qui a lieu. C'est comme cela qu'il faut chercher l'accomplissement de la prophétie, de la même manière que si vous voulez savoir quels sont les accomplissements littéraux des prophéties que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 6, de cette lune qui se transforme en sang et du soleil qui est caché et des étoiles qui tombent du ciel. Si vous voulez trouver ces accomplissements, eh bien, il faut les chercher. Comment les trouverez-vous, à moins que vous les cherchiez? Et c'est comme ça, frères et sœurs, que nous pouvons arriver à une juste compréhension des accomplissements prophétiques, à la fois de la Bible et de l'esprit de prophétie. C'est en cherchant l'accomplissement, plutôt qu'en attendant que l'accomplissement soit présenté à votre esprit comme par le fruit du hasard. Il faut chercher ces choses-là, frères et sœurs. Et donc, est-ce que l'esprit de prophétie nous donne un indice sur ce qu'est concrètement ce témoignage franc du témoin fidèle et véritable aux Laodicéens? Je le lis ici dans le livre en anglais Manuscript Releases, volume 15, à la page 92 et au paragraphe 2, où il est écrit: le message que nous ont livré A.T. Jones et E.J. Wagoner est le message de Dieu à l'église de Laodicée. Et malheur à celui qui professe croire à la vérité, mais qui ne reflète pas aux autres les rayons donnés par Dieu. Quel était ce message que A.T. Jones et E.J. Wagoner ont livré au peuple de Dieu? Elle a dit, le message que nous ont livré à Ted Jones et E.G. Wagoner, c'est le message, c'était et c'est le message de Dieu à l'église de Laodicée. Et nous relisons, quand la servante du Seigneur demanda ce qui avait provoqué ce criblage, vous savez, ce qui était en train de prier ardemment, avec un esprit de supplication agonisante et ce qui était indifférent, elle demandait ce que ce criblage signifiait et je lis, on me répondit qu'il était causé par le témoignage franc du conseil du témoin véritable aux Laodicéens. Ce conseil aura son effet sur le cœur de ceux qui le reçoivent. il l'amènera à exalter la vérité, quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront, et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Et donc, nous venons de lire dans la citation juste après, manuscrit Ulysses, volume 15, page 92, que le message que nous ont livré A.T. Jones et E.J. Wagoner est le message de Dieu à l'église de Laodicée. Et donc, si c'est ce message qui est le conseil du témoin fidèle et véritable à Laodicée, si c'est le message de 1898 à Minneapolis qui est le conseil de Jésus à Laodicée, qui est ce témoignage franc de Jésus à Laodicée, alors nous pouvons nous attendre, nous pouvions, ne serait-ce que par cela, nous attendre à ce que ce message provoque le criblage. Et c'est en effet ce que nous réalisons lorsque nous lisons les déclarations suivantes de l'esprit de prophétie. Mais avant cela, j'aimerais mettre les points sur les i en agrandissant, en élargissant sur ce qu'était ce message et les messagers qui l'ont présenté. Nous avons vu leur nom et nous les voyons répéter une fois de plus ici, dans Événements des derniers jours, à la page 151, au paragraphe 2 et 3. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères E.J. Wagoner et A.T. Jones. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur crucifié, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la rançon. Il invitait les gens à recevoir la justice de Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Ensuite, ça continue. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains afin qu'il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa propre justice à l'être humain désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Et donc vous voyez, frères et sœurs, que tout est en train de converger dans le message de 1888. Parce que c'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte, parce que nous lisons à un autre endroit que c'est le début du grand cri du troisième ange. C'est le début de cet ange d'Apocalypse chapitre 18, cette voix forte, et c'est le début de cette effusion dans une large mesure du Saint-Esprit, à savoir, comme nous l'avons vu précédemment, la pluie de l'arrière-saison qui vient pourquoi ? Pour préparer le blé pour la récolte finale, pour la moisson finale. C'est toutes ces choses sont en train de converger et c'est aussi, comme nous l'avons vu juste avant, le message qui causerait et qui a causé un criblage parmi le peuple de Dieu, ou, je devrais dire, parmi le peuple du troisième ange. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions regarder, parce que vous avez vu que nous avons lu que l'esprit de prophétie nous annonçait dans les premiers écrits, au début du mouvement, que ce criblage qu'elle avait vu en vision serait provoqué par ce témoignage franc du conseil du témoin fidèle et véritable au Laodicéen. Et maintenant, nous voyons que ce message-là est bel et bien le message de 1888. Et donc maintenant, nous voulons voir quelle était cette opposition qui a provoqué ce criblage. Nous le lisons dans Message choisi, volume 1, à la page 275, paragraphe 5 et page 276, paragraphe 1. Je lis. C'est le deuxième paragraphe qui est le plus important, mais si vous voulez vraiment comprendre le lien entre le message de 1888 et le témoignage franc au Laodicéen, eh bien, il faut lire ce premier paragraphe. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Et c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont l'impression d'avoir reçu le message de 1888, alors qu'en réalité, ils n'ont rien reçu du tout. Parce que toute la puissance du message de Minneapolis par Eddie Jones et E.J. Wagoner était renfermée dans le fait que c'était le message de Jésus aux Laodicéens où il dit « Tu dis que tu es riche et que tu t'es enrichi, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, aveugle et nu. » C'est inséparable. Et lorsque nous disons que nous avons compris 1888, que nous avons compris la justice de Christ, mais que nous n'avons pas compris que Dieu, dans 1888, a amené tout le caractère odieux de la loi de Dieu en lien avec notre nature pécheresse, si nous n'avons pas saisi cela, alors nous n'avons pas compris. C'est pour ça que je vous demande d'être très attentif à ce qui suit. Elle cite Galates chapitre 3, verset 24. La loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Elle dit, dans ce passage, le Saint-Esprit, par l'entremise de l'apôtre, parle surtout de la loi morale. Qu'est-ce que c'est la loi morale? Les 10 commandements. Ce passage, que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, parle surtout de la loi morale. La loi de Dieu, la loi nous révèle le péché et nous fait éprouver notre besoin de Christ et de nous réfugier auprès de lui pour obtenir le pardon et la paix en pratiquant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant vient la déclaration suivante. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter cette vérité sur la loi de Galates chapitre 3 verset 24, qui était la loi de Dieu, surtout, le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter cette vérité explique en grande partie l'opposition qui fut manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur communiqué par les frères Wagoner et Jones. Leur refus d'abandonner leurs idées et d'accepter cette vérité, qu'est-ce que nous lisons, explique en grande partie, en anglais c'est était le fondement de l'opposition qui fut manifestée à Minneapolis. C'était le fondement, ce refus d'accepter cette vérité que la loi de Dieu est en réalité, comme c'est marqué dans Romains chapitre 7, ravive le péché. Et que plus nous avons une compréhension et une connaissance grande de la loi de Dieu, plus le péché prend de l'ampleur et de la puissance en notre vie. C'était un refus d'accepter cette vérité qui était vraiment à la base de cette opposition qui fut manifestée à Minneapolis contre le message du Seigneur. Ce n'est pas le message des hommes, c'était le message du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'était le conseil du témoin fidèle et véritable au Laodicéen dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 21. Plutôt verset 14 à 19, parce qu'après il s'agit d'autre chose. Verset 20 et verset 21. Je poursuis. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance exceptionnelle du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment leur communiquer. L'ennemi les a empêchés d'obtenir cette efficience qui aurait pu être la leur pour proclamer la vérité au monde de la même manière que les apôtres l'avaient proclamé après le jour de la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit éclairer la terre entière de sa gloire, et ce sont nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Donc cette lumière de l'ange d'Apocalypse chapitre 18 a été étouffée parce que nos propres frères, disait-elle, ont résisté au message de Jésus à Laodicée. Et c'est ce qui a provoqué, enclenché le criblage. Est-ce que vous le voyez? Et parce qu'ils ont résisté, Dieu n'a pas pu les utiliser. De la même manière que Dieu n'avait pas pu utiliser les Juifs avant la venue de Christ. Il n'a pas pu utiliser les Juifs pour manifester la lumière, manifester la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand Jésus est venu, qu'ont-ils fait? Qu'est-ce que les Juifs ont fait à Jésus? Ils l'ont crucifié. Ils l'ont rejeté. Et nous sommes en train de voir ici que le témoignage franc qu'avait Jésus pour les Juifs en son temps et qui a été rejeté est le même témoignage qui fut rejeté en 1888. Nous allons voir ça, frères et sœurs. Et je veux vous demander d'être très attentifs parce que si vous regardez bien ce fil qui lie directement les événements du rejet de Christ à son premier avènement aux événements du rejet de Christ en 1888, vous allez voir que les choses qui se sont produites en lien avec le rejet de Jésus-Christ par les dirigeants de l'Église juive en ce temps-là, ces mêmes événements se sont reproduits en lien avec le message de 1888 et avec les dirigeants qui ont rejeté ce message. Et donc, j'aimerais bien lire cette déclaration suivante maintenant qui se trouve dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers à la page 79 et au paragraphe 3. Encore une fois, vous aurez ces citations dans la description. Elles seront disponibles dans le fichier PDF comme d'habitude. Je lis Testimonies to Ministers à la page 79, paragraphe 3, où il est écrit: les périls des derniers jours sont sur nous ou sont imminents. Satan prend le contrôle de tout esprit qui ne se place pas résolument sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Écoutez bien. Certains ont nourri de la haine contre les hommes à qui Dieu a donné la charge de partager un message spécial au monde. Le voilà encore ce message. Nous venons d'en parler juste avant. Et il nous est représenté ici. Ce message que Dieu aurait voulu que le peuple de Dieu présente avec une grande puissance comme les apôtres avaient présenté la vérité au temps de la Pentecôte. Certains ont nourri de la haine contre les hommes à qui Dieu a donné la charge de porter un message spécial au monde. Quelles sont ces personnes? Quand est-ce que ces personnes ont fait cela? Je le lis. Ils ont commencé ce travail satanique à Minneapolis. En 1888. C'est mes paroles, mais c'est ce que cela veut dire. Ils ont commencé ce travail satanique à Minneapolis. Et puis, lorsqu'ils ont vu et ressenti la manifestation du Saint-Esprit témoignant que le message était de Dieu, ils l'ont haï encore davantage. C'est exactement ce que nous lisons au sujet des Juifs, des pharisiens et des sadducéens et des scribes et des dirigeants du temps de Christ. Parce que lorsqu'ils ont vu et qu'ils étaient convaincus, c'est ce que nous lisons dans le Desire of Ages, dans le livre Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu et qu'ils étaient convaincus que celui qu'ils avaient devant les yeux était bel et bien le Fils de Dieu, le Messie, ils l'ont haï encore davantage. Ils ont résisté aux preuves qui étaient communiquées par le Saint-Esprit. Et maintenant, au sujet des dirigeants du temps de 1888, nous lisons, lorsqu'ils ont vu et ressenti la manifestation du Saint-Esprit témoignant que le message était de Dieu, ils l'ont haï encore davantage, parce qu'ils rendaient témoignage contre eux. Qu'est-ce que c'est qui causerait le criblage parmi le peuple de Dieu, comme c'est écrit dans Premiers Écrits, page 270, paragraphe 2? Qu'est-ce que c'est qui provoquerait ce criblage? Le témoignage franc du conseil du témoin fidèle et véritable au Laodicéen. Pourquoi est-ce que ces hommes-là, au sujet desquels nous sommes en train de lire, ont résisté et ont haï encore davantage le message de 1888? Je le lis. Parce qu'ils rendaient témoignage contre eux. Le conseil de Jésus à Laodicée était rejeté. Ils ne voulaient pas que ça s'applique à eux. Ils voulaient bien que ça soit écrit dans la parole de Dieu, mais ils ne voulaient pas qu'on l'applique à eux. C'est ça qui provoqua le criblage. Et donc, frères et sœurs, si ceci a provoqué le criblage comme c'était prophétisé que cela se produirait, comme nous avons lu dans les premiers écrits, eh bien, il ne peut qu'y avoir quelque chose qui va crescendo dans cette expérience. De la même manière que le rejet de Christ par les scribes, les pharisiens et les sadducéens du temps de Jésus a provoqué une suite d'événements qui est allé crescendo jusqu'à la mort de Étienne. Vous savez cela. Jusqu'à la mort de Étienne, après quoi les disciples se sont dispersés et sont allés proclamer le message autre part que dans Jérusalem. Ils se sont dispersés, ils ont fui, parce que la persécution était en train de sévir. Contre qui? Contre les chrétiens. Ici, vous avez le même scénario, mais maintenant, face à ceux qui désiraient être fidèles à Jésus dans son message aux Laodicéens, qui désiraient suivre Jésus par rapport à ce message, non pas le Jésus de leur imagination, mais le Jésus qui s'était révélé à eux à travers le message de 1888. Par rapport auquel et avec lequel la révélation de la loi comme notre conducteur qui était là pour nous mener à Christ était dans laquelle cette notion, cette compréhension de la loi était inséparable. Cela faisait inséparablement partie du message de 1888. Que dans Galates chapitre 3, verset 24, la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Je continue. Ils n'étaient pas prêts à humilier leur cœur pour se repentir, donner gloire à Dieu et donner raison à la vérité. Ils ont persisté dans leur esprit, étant remplis d'envie, de jalousie et de mauvais soupçons, comme l'avaient été les Juifs. Ils ont ouvert leur cœur à l'ennemi de Dieu et de l'homme, et pourtant, ces hommes-là ont occupé des postes de confiance et ont façonné l'œuvre autant qu'ils le pouvaient, à leur propre image. Et donc, dites-moi, frères et sœurs, si ces hommes-là, qui étaient en train d'ouvrir leur cœur à l'ennemi de Dieu et de l'homme, et en train de rejeter le message du Seigneur par ses messagers, et en train de persister dans leur esprit étant remplis d'envie et de jalousie et de mauvaises soupçons, si ces personnes-là occupaient des postes de confiance dans l'Église et façonnaient l'œuvre autant qu'ils le pouvaient à leur propre image, que se passerait-il? Que se passerait-il vis-à-vis de ces personnes-là et du blé? Est-ce que ces personnes-là qui sont placées en poste de confiance sortiraient et le blé resterait, qui n'a aucune position? Ou est-ce que ces personnes-là fortifieraient leur emprise sur les institutions et le blé sortirait? Et Dieu prendrait son peuple du milieu de l'ivraie, prendrait ses ministres fidèles du milieu des serviteurs infidèles. Est-ce que nous pourrions nous attendre à cela? Poursuivons. J'aimerais lire justement, en lien avec ce que j'étais en train de dire. Vous venez de voir ici ces personnes, ce genre de caractère. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Qu'est-ce qui est en train de se manifester dans cette description-là que nous venons de lire? Matthieu chapitre 24, verset 44 à 51, je lis. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en son cœur « Mon maître tarde à venir » et qu'il se mettra à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quel est le contraste ici? Quel est ce double volet auquel nous pouvons nous attendre dans le contexte de l'expérience des 10 vierges et du cortège nuptial? Le serviteur fidèle qui donne à ses domestiques la nourriture au temps marqué ou au temps convenable, et d'autre part, le méchant serviteur infidèle qui dit en son cœur « Mon maître tarde à venir » et qui se met à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur cela, mais juste, ne serait-ce que pour brièvement aborder ces choses en lien avec ce que nous venons de lire au sujet de ces hommes qui ouvraient alors leur cœur à l'ennemi de Dieu et de l'homme, en rejetant le message de Dieu dans 1888, nous pouvons voir que c'était bel et bien un accomplissement de cette déclaration sur le méchant serviteur. Dans le contexte du retour de Jésus, parce que vous lisez au verset 44, que Jésus disait « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Et ensuite, Jésus dit « Quel est donc le serviteur fidèle ?» et prudent que son maître a établi sur ses domestiques, etc., pour leur donner la nourriture au temps marqué. En ce moment-là, quel est ce serviteur fidèle? Jésus demande. En ce moment où Jésus est sur le point de revenir, en ce moment où nous sommes sur cette période où le message du premier ange du deuxième et du troisième ange est proclamé. Et le retour de Jésus est imminent. Dans Apocalypse chapitre 14 étant la conclusion de ce chapitre, le retour de Jésus sur sa nuée pour ramasser ce qui a déjà été moissonné. Pendant, dans ce contexte-là, vous avez le serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable ou marqué, la nourriture que Dieu désire communiquer à son peuple au bon moment, à la bonne heure, et en prenant en compte les temps et les lieux dans la lecture et l'étude de l'esprit de prophétie. Et d'autre part, dans cette même période, le méchant serviteur qui prêche toujours la même chose, mais qui dit en son cœur, moi je reste encore un peu longtemps ici, mon maître tarde à venir. À la chair, il prêche le retour de Jésus, mais dans sa vie, il dit, tout va bien. Et ce méchant serviteur, qu'est-ce que Jésus nous dit, nous a déclaré à ce sujet, comme dans une déclaration prophétique, et bel et bien, comme cela? Il se met à battre ses compagnons de service et à manger, à boire avec des ivrognes. Dans Apocalypse chapitre 17, je crois, nous lisons au sujet de Babylone la Grande, cette église de la papauté, qu'elle est ivre du sang des saints et aussi que les nations se sont abreuvées du vin de sa fornication. Les nations sont ivres du vin de l'Église catholique, de ses doctrines, de ses superstitions, de ses traditions. Eh bien ici, vous avez un serviteur qui est méchant, qui est infidèle, qui dit en son cœur que Jésus ne va pas vraiment revenir très très bientôt. Et ce serviteur-là, qui nous est annoncé, l'un de ses traits caractéristiques, c'est qu'il partage du vin, des idées, des traditions, des concepts, même peut-être des doctrines de l'Église catholique romaine. Il mange et il boit avec des ivrognes. Il partage cet esprit de ces faux réveils qui ont été institués, qui ont été mandatés par l'ordre des jésuites, qui n'est autre que le bras couvert de la papauté. Donc ils mangent et boivent du même breuvage dont l'Église catholique est la source. Mais ils sont dans le corps du peuple de Dieu et ils prétendent annoncer le retour de Jésus. Mais que font-ils? Ils battent leurs compagnons de service. Pourquoi les battent-ils? Ils font à leurs compagnons de service ce que les compagnons de Jérémie lui faisaient en disant « Frappons-le de notre langue, disons des choses mauvaises à son sujet, calomnions-le, accusons-le, condamnons-le, représentons-le sous un mauvais jour. » Ils font toutes ces choses-là. Et c'est précisément ce que nous lisons au sujet de ces personnes qui résistaient, qui occupaient des postes de confiance et qui façonnaient l'œuvre autant qu'ils le pouvaient à leur propre image à cette époque-là. Nous sommes en train, frères et sœurs, d'explorer les développements historiques du cri de l'âge. Et j'aimerais lire cette déclaration de l'esprit de prophétie dans Testimonies for the Church au volume 6 et à la page 400 et au paragraphe 3, où il est écrit « Tandis que les épreuves se multiplient autour de nous, tant la séparation que l'unité seront vues dans nos rangs. Ceux qui ont eu une grande lumière et de précieux privilèges, mais qui ne les ont pas mis à profit, nous quitterons sous un prétexte ou un autre. N'ayant pas reçu l'amour de la vérité, ils seront pris dans les illusions de l'ennemi, ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons et se détourneront de la foi. Cette déclaration a été posée sur la page en 1901. Qu'est-ce qui nous était annoncé ? Tandis que les épreuves se multiplient autour de nous, tant la séparation que l'unité seront vues dans nos rangs. La séparation du blé avec le blé, parce que les anges sont en train d'opérer ce rassemblement, comme nous l'avons vu déclaré de nombreuses fois dans l'esprit de prophétie, et c'était l'unité, et la séparation du blé d'avec l'ivraie, de l'ivraie d'avec le blé, l'ivraie est rassemblée avec l'ivraie, le blé est rassemblé avec le blé, et ensuite, que se passe-t-il ? Dieu sort les gerbes et il les met autre part. Et l'ivraie, il la met autre part. Et l'ivraie, peut-être qu'elle restera organisée. Nous verrons cela dans nos prochaines études. Et nous lisons au sujet de ceux qui ont eu une grande lumière et de précieux privilèges, mais qui ne les ont pas mis à profit, qu'ils nous quitteront sous un prétexte ou un autre. Mais attention, rappelez-vous de ce que Dieu a dit au sujet de cette période du jugement durant laquelle Dieu rassemble son peuple du milieu de l'ivraie. Certaines personnes lisent ces choses et disent « Oui, ils nous quitteront, nous resterons dans l'Église, eux ils nous quitteront. » Attention, parce que Dieu a aussi dit qu'il prendra ses ministres fidèles, qu'il prendra le blé, qu'il rassemble les siens du milieu de l'ivraie. Toutes ces choses doivent être prises en compte, frères et sœurs. Et donc, lorsqu'ils nous quittent, que leur arrive-t-il en réalité ? Pas physiquement, spirituellement, que leur arrive-t-il ? Je le lis, n'ayant pas reçu l'amour de la vérité, que leur arrivera-t-il ? Ils seront pris dans les illusions de l'ennemi. Prenez en compte, frères et sœurs, temps et lieu. Ceci a été écrit en 1901. Si vous l'appliquez aujourd'hui, au XXIe siècle, vous n'avez pas compris. Ils seront pris dans les illusions de l'ennemi, ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons et se détourneront de la foi. Voilà comment ils nous quitteront. Ils se détourneront de la foi. Il n'est pas question de savoir qui reste dans l'Église ou qui part. C'est l'Église et le pilier et le fondement de la vérité. Et donc ceux qui se détournent de la foi, que leur arrive-t-il ? Ils sont en train de nous quitter. Ils sont en train de quitter l'Église. Ils restent peut-être dans l'organisation. Mais si l'organisation est à apostasier, alors ce n'est plus l'Église. Gardez bien un esprit. Plus encore, je lis « Message choisi, volume 2, à la page 130 et au paragraphe 2 et 3, où il est écrit. Nous l'avions lu la dernière fois, et maintenant je vous appelle à vous rappeler de ce que nous avions lu, lié avec ce passage, et maintenant, dans le contexte de ce que nous venons de voir, et de rajouter tous ces éléments pour élargir le sens de ces paroles. Je lis. Une nouvelle vie descend du ciel. Ceci avait été écrit en 1896. Une nouvelle vie descend du ciel et s'empare de tout le peuple de Dieu. Cependant, des divisions se produiront dans l'Église. Deux parties se formeront. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble en attendant la moisson. L'œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps, et tous ceux qui sont ouvriers avec Dieu lutteront énergiquement pour la foi qui a été une fois donnée aux saints. Ils ne se laisseront pas détourner du message présent qui déjà illumine la terre de sa gloire. Est-ce que cela va s'arrêter ? Y aura-t-il une halte ? Non, parce qu'il est écrit « L'œuvre se fera en profondeur et avec toujours plus d'ardeur jusqu'à la fin du temps. » Nous avons ici une description d'une suite d'événements qui ne va que crescendo, qui ne peut pas selon ces paroles-là, on ne peut pas s'attendre à ce que cette suite d'événements aille en s'interrompant et en reprenant plus tard dans un moment que il nous incombe de juger pour savoir et déterminer quand ce moment sera dans le futur. Ce n'est pas le message. Et je relève aussi cet élément où il est écrit que le bon grain et l'ivraie croissent ensemble en attendant la moisson. Quand est-ce que cette moisson a lieu? Nous sommes dedans. Donc, lorsqu'il est écrit que deux parties se forment et que le bon grain et l'ivraie croissent ensemble en attendant la moisson, quand est-ce que cette moisson aurait lieu? Pour eux, comme nous le verrons la prochaine fois, pour eux, la moisson était imminente. Imminente. Parce que nous avions lu la dernière fois, je crois que c'était dans Amos, que le temps sera d'une telle rapidité pendant cette période de 1844 jusqu'à la fin du temps de grâce. Tout sera en train de se superposer d'une telle manière que des personnes seront en train de semer pendant que d'autres seront en train de récolter. Dans le contexte de la semence de la parole de Dieu, certains sont en train de partager la parole de Dieu, sont en train de commencer un travail pendant que d'autres seront en train de récolter les fruits de toute une vie de sanctification. C'est ce à quoi nous pouvons nous attendre pendant cette période du jugement, frères et sœurs. Et donc, lorsqu'il est écrit que deux parties se formeront, le bon grain et l'ivraie croissent ensemble en attendant la moisson, en 1896, elle disait cela, eh bien, il y avait quelque chose ici qui était en train de se produire. La pluie de l'arrière-saison avait commencé en 1888, et quand bien même il y aurait encore des personnes qui continueraient à semer, il y avait une moisson ici qui était en train de se présenter à nos esprits et dans leur réalité. Et par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous allons voir cela encore. Ce n'est pas terminé. Ici, nous n'avons que touché à la surface du sujet. Nous avons abordé certaines déclarations qui mettent clairement en ligne de mire cette formation des deux parties, les révélations et les développements historiques de ce criblage, historique, en harmonie avec le message de 1888. Et il y a une autre déclaration que j'aimerais bien lire avant que nous concluions cette étude. Elle se trouve dans Testimonies to Ministers, encore une fois, à la page 78 et au paragraphe 2. Dès qu'un homme se sépare de Dieu et que son cœur n'est pas soumis à la puissance du Saint-Esprit, les attributs de Satan se révèlent et il commence à opprimer ses semblables. Il se dégage de lui une influence contraire à la vérité, à la justice et à la droiture. Cette disposition se manifeste dans nos institutions, non seulement dans les relations des ouvriers entre eux, mais dans le désir manifesté par une institution de contrôler toutes les autres. Oui, frères et sœurs, c'est un véritable problème spirituel qui était en train de se manifester au sein du peuple du troisième ange. Et ceci fut écrit en 1895. Nous sommes toujours, vous voyez, tout est en train de se tramer pendant ces années, à partir de 1888 jusqu'à 1914. Je vous ai donné un indice. Mais ce n'est pas un mystère, de toute manière, mais nous le verrons ici. Par la grâce de Dieu, nous poursuivrons ces détails. Mais avant cela, j'aimerais lire et terminer cette citation que je viens de débuter. Cette disposition à avoir une influence contraire à la vérité, à opprimer nos semblables, se manifeste, disait-elle, en son temps, dans nos institutions, non seulement dans les relations des ouvriers entre eux, mais dans le désir manifesté par une institution de contrôler toutes les autres. C'est cette manière de fonctionner, cette manière charnelle de fonctionner qui était en train de régir les institutions de l'Église adventiste du septième jour et qui a été propulsé de l'avant par la résistance des dirigeants au message de 1888 qui était lié à la loi de Dieu comme notre conducteur pour nous mener à Christ. Ce message était insupportable pour eux, insupportable pour la chair. C'est de cela dont il s'agit. Le message de Christ à Laodicée qui dit que je suis aveugle, pauvre, malheureux, nu, et que je ne sais pas, même après qu'il m'en ait informé, est une croix qu'il n'était pas prêt à porter. La chair tremblait face à l'activité éprouvante du Saint-Esprit, et beaucoup se comportaient comme les Juifs s'étaient comportés envers Christ, à savoir, ils étaient prêts à crucifier le messager de Dieu. En l'occurrence, c'était Jean-Baptiste qu'ils ont décapité. Ensuite, ce fut Jésus qu'ils ont crucifié. Après, ce fut Étienne qu'ils ont lapidé. Et ensuite, ce fut Paul qu'ils ont persécuté. Paul persécutait et ensuite il fut persécuté parce qu'il était le porteur du message de Dieu qui est toujours une croix pour l'homme. Et c'est ce que nous voyons, frères et sœurs, dans ces développements historiques du criblage, qui n'est autre que la conséquence du témoignage franc aux Laodicéens, par le témoin fidèle et véritable. Je continue. Des hommes à qui sont confiées de lourdes responsabilités, mais qui n'ont aucun lien vivant avec Dieu, ont outragé et outrage encore son Saint-Esprit. Il se livre au même esprit qui fut manifesté par Corée, Dathan et Abiram, et par les Juifs à l'époque de Christ. Voir Matthieu chapitre 12, versets 22 à 29 et versets 31 à 37. Des avertissements sont venus de Dieu à maintes reprises pour ces hommes, mais ils les ont rejetés et se sont aventurés dans la même voie. Vous voyez, frères et sœurs, ils étaient en train de suivre exactement l'exemple des Juifs à l'époque de Christ, exactement à la lettre. Je continue. Lisez les paroles de Christ dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Elle cite. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Maintenant, elle ajoute, ces dénonciations sont données en guise d'avertissement à tous ceux qui, au dehors, paraissent justes aux hommes, mais au dedans, sont remplis d'hypocrisie et d'injustice. Ils disent, nous sommes délivrés pour faire toutes ces choses-là. Ils disent aussi, si nous eussions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Ainsi, dit Jésus, vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Quelles leçons redoutables et décisives sont ici données? Jésus a dit, c'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous ferez mourir et vous crucifierez les uns, vous fouetterez dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville les autres. Maintenant elle dit, Cette prophétie a été littéralement accomplie par les Juifs dans la manière dont ils ont traité Christ et les messagers que Dieu leur a envoyés. Des hommes suivront-ils en ces derniers jours l'exemple de ceux que Christ a condamnés? Elle disait cela dans le contexte du rejet du message de 1888 par ces hommes à qui avaient été confiées de lourdes responsabilités dans l'œuvre. Il disait, des hommes suivront-ils en ces derniers jours, l'exemple de ceux que Christ a condamnés? Était en train de se dire, l'Esprit était en train de demander, est-ce qu'ils vont faire cette chose encore une fois? Cela continue. Ils n'ont pas encore réalisé entièrement ces terribles prédictions, mais si Dieu épargne leur vie et qu'ils nourrissent le même esprit qui a caractérisé leur ligne de conduite aussi bien avant qu'après la réunion de Minneapolis, ils combleront entièrement les actes de ceux que Christ a condamnés lorsqu'il était sur la terre. Qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous annonçait en 1895 au sujet de ces hommes qui résistaient, qui outrageaient, qui avaient outragé et qui outrageaient encore le Saint-Esprit par leur rejet de la vérité, par leur esprit de domination, d'oppression de leurs semblables, de leur désir de contrôler tout ce qui était autour d'eux, contrôler toutes les institutions à leur portée. L'esprit de prophétie disait, ils n'ont pas encore réalisé entièrement ces terribles prédictions par rapport qui étaient originellement déclarées au sujet des pharisiens, mais qui et ici étaient données à leur sujet. Ils n'ont pas encore réalisé entièrement ces terribles prédictions, mais quoi? Mais si Dieu épargne leur vie, et quoi? Et qu'ils nourrissent le même esprit qui a caractérisé leur ligne de conduite aussi bien avant qu'après la réunion de Minneapolis, que se passera-t-il? S'ils font cela, s'ils remplissent ces conditions, ils combleront entièrement les actes de ceux que Christ a condamnés lorsqu'il était sur la terre. Que se passe-t-il, frères et sœurs, quand des hommes comblent entièrement les actes de ceux que Christ a condamnés lorsqu'il était sur la terre? Qu'est-ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ? Quelle était la conséquence inévitable de ceux qui avaient comblé la coupe de leur iniquité en rejetant toute la vérité qui leur avait été manifestée par le Saint-Esprit, à la fois par l'avènement du Fils de Dieu, le Messie tant attendu, que par la prédication indiscutable des apôtres de Jésus-Christ? N'est-ce pas en 70 après Jésus-Christ que Jérusalem a été complètement détruite? Et que ces terribles prédictions de Deutéronome se sont vues littéralement accomplies en ce que les femmes mangeaient la chair de leurs enfants tellement que la famine était grande à cause du siège. Eh bien, nous sommes avertis que de telles choses étaient proclamées pour ceux qui agissaient de la même manière envers le témoignage de Jésus que les Juifs avaient agi envers Jésus lui-même lorsqu'il était sur la terre. Et nous pouvons ici vérifier cela d'une manière plus équilibrée dans cette déclaration de message choisi, volume 1, à la page 148 et au paragraphe 2. Nous sommes en train ici d'examiner attentivement et très très sérieusement et solennellement les développements historiques du criblage et du message de Jésus à la Odyssée. Je lis, message choisi, volume 1, page 148 et au paragraphe 2. Dieu appelle un réveil spirituel et une réforme spirituelle. Si ce changement n'a pas lieu, ceux qui sont tièdes deviendront de plus en plus odieux au Seigneur jusqu'à ce qu'il refuse de les reconnaître comme ses enfants. À quoi est-ce que cela fait référence? Deviennent de plus tièdes, deviennent de plus en plus odieux au Seigneur jusqu'à ce qu'il les refuse de les reconnaître comme ses enfants. Hein? Jésus disait dans, allons-y brièvement, parce que c'est directement lié, Apocalypse chapitre 3, verset 15, voyons voir. Apocalypse chapitre 3, verset 14, et on va aller jusqu'au verset 16 pour comprendre bien cela. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Aussi tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà ce que cela veut dire quand il est écrit « Si ce changement n'a pas lieu, ceux qui sont tièdes deviendront de plus en plus odieux au Seigneur jusqu'à ce qu'il refuse de les reconnaître comme ses enfants. » Et j'aimerais conclure notre méditation dans « Instructions » pour un service chrétien effectif à la page 51 et au paragraphe 2, où il est écrit ceci. Parce que Dieu avait annoncé que si ce changement n'a pas lieu, ces personnes qui sont tièdes, il ne pourra plus les considérer comme ses enfants. Il refusera de les reconnaître comme ses enfants. Il devra les vomir de sa bouche. C'est la déclaration du Seigneur lui-même. S'il n'y a pas ce réveil spirituel, cette réforme spirituelle à laquelle il appelait et qu'il demandait. Et ici, je lis dans Instructions pour un service chrétien effectif, à la page 51. C'est une déclaration qui fut faite en 1893. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer son histoire terrestre et qui ne se trouverait pas tout autant sans Dieu et sans espérance dans le monde que le pécheur ordinaire. Ils font profession de servir Dieu, mais ils servent plus ardemment Mammon. Ce demi-service pour l'un et pour l'autre est un reniement constant de Christ plutôt qu'une confession de lui. Ils vivent comme des pécheurs et prétendent être des chrétiens. Ceux qui prétendent être chrétiens et qui veulent confesser Christ devraient sortir du milieu d'eux, ne pas toucher à ce qui est impur, et ce, séparés. Vous voyez ici que l'esprit de prophétie était en train d'appeler à la séparation et à l'unité. Parce que nous avons lu que pendant que toutes ces épreuves autour de nous ont lieu, à la fois la séparation et l'unité seront vues dans nos rangs. La séparation du blé d'avec l'ivraie. De ceux qui traversent un réveil, une réforme spirituelle, d'avec ceux qui sont tièdes et qui ne veulent pas être faits et devenir bouillants. Nous avons vu, frères et sœurs, dans cette brève méditation qui fut un peu prolongée, quelques révélations des développements historiques du criblage, tels que nous pouvons le voir dans l'esprit de prophétie. Et par la grâce de Dieu, dans notre deuxième partie, nous verrons comment cela a culminé, comment ce criblage a culminé au sein de l'Église adventiste du septième jour, et qu'est-ce qui s'est passé comme une conséquence directe de cette moisson qui était annoncée dans la méditation que nous avions lue précédemment, à savoir que le blé et l'ivraie croissent jusqu'à la moisson. Comment cette moisson-là s'est concrétisée dans l'expérience de nos pionniers et de leurs enfants, de leur postérité. C'est ce que nous essaierons d'examiner la prochaine fois que nous nous rassemblons autour de la parole. Puisse le Seigneur, à la lumière de cela, nous donner un réconfort, que la parole ne nous a pas laissés dans l'obscurité, mais que nous pouvons savoir où nous nous trouvons dans l'ordre des accomplissements de la prophétie et que nous ayons un sens de la présence et de l'accompagnement incessant du Seigneur. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse et vous réconforte et vous accompagne au nom de Jésus. Amen.